Dick par le père Philippe Arimont, le 18 avril 1991.
avant c'était toujours les pitres qu'on avait pour le mariage, alors on était toujours obligé de tourner autour. Quand on avait certains milieux qui étaient difficiles à brancher là-dessus, maintenant on peut changer. Et certains demandent cela, parce qu'ils peuvent choisir. Il faut toujours faire attention. Bien distinguer autorité et pouvoir. Ça, on ne peut pas nier que dans l'épître aux Éphésiens, c'est dit. Par le fait même, on voit aussi le troisième point, que vous voyez alors très nettement dans un domaine, les fins du sacrement de mariage. Vous avez l'amour d'amitié, les enfants, la procréation et l'éducation. Et on a quelquefois l'impression que les trois fins sont mis un peu en parallèle. Et on ne peut pas nier qu'à certains moments, on a insisté beaucoup sur la famille nombreuse. Dans les pays particulièrement chrétiens, Canada chrétien. Parce que par là, vous comprenez, l'équilibre se modifiait au point de vue politique. Et les catholiques augmentaient sur les protestants. Ça faisait un concours. Bien, la finalité du mariage n'est pas de faire emporter les catholiques sur les protestants. Ce n'est pas une finalité du mariage. Ou faire que, de fait, les chrétiens l'emportent sur les non-chrétiens parce qu'il n'y aura plus d'enfants. Ce n'est pas une finalité du mariage. Mais que la procréation soit une finalité du mariage, c'est bien évident. Il faudra comprendre comment. Là aussi, voyez, le point de vue du sacrement met en lumière certains aspects que la philosophie ne dirait pas la même chose. C'est important, ça ne diminue en rien ces affirmations au point de vue surnaturel. Mais c'est important de comprendre que certains aspects sont dits au nom d'une éthique chrétienne ou au nom de la foi et non plus au nom tout simplement de l'intelligence du foyer, du couple. Pas la même chose. Le point de vue de l'éducation chrétienne, on a beaucoup insisté aussi là-dessus. Je comprends très bien. D'où l'école libre. Vous voyez ? C'est évident que c'est venu de là. Regardez dans les pays où il n'y a pas ce point de vue-là, les tensions sont beaucoup moins fortes. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer. Hein. Je constate, je le regarde. Regarde comme un fait que, en tant que chrétien, je dis ce fait, il est bon. Les exagérations n'empêchent pas la grandeur de la chose. Parce que la responsabilité d'un foyer chrétien par rapport à l'éducation est sûrement très forte. Donc a intensifié, a mis une note spéciale sur cette responsabilité. Au point de vue foyer chrétien, éducation des enfants chrétiens, ils ont voyé ça surtout anciennement, parce que maintenant c'est modifié dans la législation d'église, pour quand il y avait des mariages entre protestants et catholiques, entre catholiques et orthodoxes. Demander aux parents, c'était à la feuille du mariage qu'on devait remplir. Je l'ai vu à Fribourg, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. On demandait aux parents de signer comme quoi ils promettaient d'élever les enfants dans l'église catholique. tout à fait unique. Et que naturellement, il ne peut pas être remplacé par autre chose. Est-ce que vous savez que c'est la grande question aujourd'hui? On dit c'est conventionnel. C'est le mariage chrétien. Or, nous ne sommes plus chrétiens, nous voulons autre chose. Alors, il faut rappeler, non, au plan purement humain, que le mariage a quelque chose de proprement naturel, humain, qui ne peut pas être remplacé par autre chose. C'est un amour d'amitié qui implique le don des corps en vue d'un amour plénier pouvant être source de fécondité. Je crois que c'est la première chose. Plusieurs éléments à noter, il y a souligné, il y a développé. Le mariage implique un amour d'amitié. Et ça, je crois que c'est premier. Ce n'est pas au niveau passionnel. Brutalement, c'est ça la question. Eh bien non. Au point de vue purement humain. Et ça, je crois que c'est... Vous voyez, c'est le prolongement de l'éthique, ça. Comme c'est justement là le point premier, on retrouve l'éthique avec toute sa force. Une éthique personnelle. Que des quantités et beaucoup de peine à comprendre ça. Ça, je comprends très bien. Faut toujours... Plus on va loin avec précision, plus il faut être compréhensif. C'est pas ça. Surtout pas moraliser. C'est pour ça qu'il faut faire de la philosophie. Parce que grâce à la philosophie, on ne moralise pas. On regarde l'homme. Et on regarde le développement humain. Tandis qu'il faut moraliser, vous dites, ah, l'Église au défaut. On s'en fiche. Disons ça tout de suite. L'Église, elle est dirigée par des curés. Les curés n'y comprennent rien. c'est sûr. Ou des vieux cardinaux. On est sûr. Alors, il faut pouvoir montrer philosophiquement que, de fait, il y a quelque chose qui est faux dans ce point de vue-là. Et que la grandeur. Et c'est d'autant plus difficile après Freud. Ça c'est sûr, parce que Freud ne s'est pas beaucoup aidé dans ce domaine-là. C'est beaucoup plus difficile. Et il faut reprendre certaines distinctions très importantes qu'Aristote et saint Thomas ont données. Et les reprendre, c'est-à-dire nous-mêmes, les comprendre à leur origine. Ensuite, comprendre que l'amour d'amitié est le sommet de l'amour humain. On ne peut pas aller plus loin dans l'ordre de l'amour humain. Ce n'est pas une camaraderie. Ce n'est pas une simple bonne entente. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est vraiment une union. Personnelle, affective, volontaire, entre deux personnes qui désirent être amies ou qui sont amies. Puisque l'amour d'amitié est quelque chose qui se fait, qui se réalise progressivement. On ne naît pas ami. Mais on a des connaturalités plus ou moins profondes. Et c'est vrai. Il y a des personnes avec elles, il suffit de se rencontrer une fois pour que on accroche. On sympathise, plus que sympathise. On comprend qu'on pourra marcher ensemble. Puis d'autres, au contraire, non. Je rencontrais 20 fois. Jamais la moindre étincelle, rien, rien, rien. Mais c'est curieux. Mais c'est comme ça. Parce qu'on s'expliquait en philosophie qu'est-ce que c'est que ce premier amour. Et tout amour d'amitié repose sur un premier amour. Vous voyez l'autre jour des jeunes, très sympathiques du reste, que je connaissais pas parce que. Ça y est, disons, je les connais un peu, les parents. Alors, jamais, c'est la première fois que je les voyais, ils sont fiancés. Ils désirent qu'on bénisse leur mariage. Donc on a un devoir de savoir un peu à qui on a affaire. Et ils me disaient, dès qu'on s'est rencontrés, d'art, je veux garder ma liberté. on ne sait jamais ce qu'on aura. Oui, c'est pas comme une statue, au moins on l'a fait, tandis que là, hein, on aura le visage d'un vieux grand-père qui est complètement en dehors de ce qui est bien. Et c'est pas drôle d'avoir un enfant, quand on est artiste, d'avoir un enfant qui grimaçant. On peut pas dire autre chose. On voit très bien ce risque. Et là, elle me dit, c'est curieux. Mais en un instant, tout ça est tombé. Puis alors, on a essayé de voir si c'était vrai. Parce que là, j'ai dit peut-être qu'il y avait des circonstances particulières comme ça qu'on... Puis on s'est retrouvés. De toute l'histoire d'un amour, quoi, d'un amour d'amitié. Mais cette seconde du premier amour, ben c'est toujours une chose qui, au point de vue philosophique, est à la fois si beau et si difficile à comprendre. Un regard. Jacob par rapport à Rachel, ça existe encore maintenant. Et ça existe, c'est très, très belle. La petite histoire après avec les autres, ça existe moins aujourd'hui, mais c'est quelque chose de grand. Et alors, cet amour d'amitié qui unit, qui se fait progressivement, se réalise progressivement, dont on prend conscience, qu'on accepte, comme si on est religieux, profondément chrétien, comme un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ça, c'est très vrai, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et qui fait que une quantité de construction qu'on avait fait avant dégringole. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Quelque chose de tout à fait dit, nouveau. Alors, progressivement, cet amour d'amitié assume ce premier amour. Est-il spirituel? Est-il passionnel? Est-il instinctif? Il est tout ça. Il y a une code naturalité. Il y a un aspect affectif. On va s'entendre. C'est du reste très beau de dire ça. Et puis spirituel. J'ai dit ça de spirituel. Il est quelque chose de très radical. Vous voyez, c'est au-delà de la morale. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est au-delà de la morale. Et là, c'était très net. Cette fille intelligente qui disait. Je m'étais fait ma morale à moi. Et puis tout d'un coup, ça a tombé. Et maintenant, je vois bien que c'est ça. Et je suis persuadé que c'est le point de départ d'une chose beaucoup plus profonde, même au plan chrétien, si c'est chrétien, de façon lointaine. On a été baptisé. On a fait notre première communion. Puis avec 15 ans, tout ça. Et l'amour rapproche toujours de Dieu. C'est ça qui est très étonnant. L'amour rapproche toujours de Dieu. Quand c'est un amour véritable. Ça met quelque chose de grand. Alors, cet amour, il assume, quand il y a un véritable amour d'amitié, il y a donc une rencontre, mais de deux personnes. Et cette rencontre de deux personnes fait qu'il y a quelque chose qui se noue, au niveau spirituel, qui assume, tout le point de vue volontaire. C'est ce qu'il y a de plus foncier dans la volonté. Qui assume Rock, c'est très beau. C'est très grand. Et on voit bien qu'à ce moment-là, cet aspect spirituel de rencontre et de joie qui noue cet amour d'amitié est plus fort que tout. C'est ça qu'on appelle ce premier amour parfaitement réalisé. Il assume la passion. Il assume l'instinct. C'est pas ça du tout qui est premier. C'est vraiment assumé. Alors, il pourra se faire, c'est bien évident, ça. Étant donné que l'amour regarde la personne. Spirituel domine, il porte les autres, donc il n'implique pas en lui-même un don des corps, mais il peut réveiller en nous un aspect plus passionnel. C'est évident que pour être plus tranquille, on pourrait dire hein, oh, l'amour, attends, je sais ce que c'est. Besoin, c'est pas pour moi. C'est terrible de dire ça, parce que c'est empêcher tout un développement humain profond et vrai. Vous fortifiez du dedans l'amour. Et c'est là où on voit très bien comment cet amour d'amitié, pour pouvoir rester toujours ce qu'il doit être dans cette dignité, réclame les vertus. Se faire justement que les vertus ne soient pas au même niveau que l'intensité de l'amour. Alors à ce moment-là, il peut y avoir des glissades. On passe de l'amour spirituel à l'amour passionnel, et de l'amour passionnel, on passera vers un amour beaucoup plus instinctif et plus sexuel. Et c'est parce qu'on n'a pas cultivé suffisamment. Et c'est toujours ce qu'on doit répondre. Pourquoi l'Église demande de faire pas de relation vis-à-vis de fiancés tout à fait décidés de se marier ensemble? C'est pour développer plus l'aspect spirituel de l'amour et permettre à l'amour spirituel d'avoir une plénitude. S'il y a tellement de divorces, c'est parce que des gens se sont mariés passionnel, en le taillant. Il sera tout orienté vers cela. Donc je crois que la première chose à bien saisir, c'est éduquer vers cet amour d'amitié dans toute sa force. Ça, c'est commun avec tous les amis, et c'est commun aussi avec l'amour qui doit s'orienter vers un amour d'époux et d'épouse. C'est commun à tout amour, même avec des amis